François Comte.
Madame, monsieur, bonsoir. Hockey sur glace, le HC Ajoie sur la route aujourd'hui dans le championnat de National League. Les Jurassiens défient Fribourg-Oteron, la BCF Arena. Les Jurassiens qui viennent de s'incliner 5-0. La Syrie a vécu une journée historique. Le régime de Bachar el-Assad est tombé sous l'assaut des rebelles islamistes qui ont mis la main sur la capitale Damas. Le président syrien a fui le pays. La fermeture de l'usine BAT à Boncourt fait l'objet d'un documentaire. Le film a été réalisé par le Genevois Laurent Grenicher. Il raconte également l'histoire de l'entreprise fondée par la famille Burus. Météo, il faudra compter avec de la bise demain et des rafales entre 40 et 50 km/h. Les températures se situeront entre moins 1 et 3 degrés maximum. Quelques bruines resteront également possibles. Hockey sur glace, le HC Ajoie à la peine ce soir en National League. La formation jurassienne jouait contre Fribourg-Oteron à l'extérieur. Le HCA vient de s'incliner 5-0 contre les Dragons. Les jaunes et noirs ont notamment payé les efforts fournis hier lors de leur victoire obtenue après prolongation contre Lausanne. Michel Léoni, vous êtes en direct de Fribourg. Est-ce que le HC Ajoie a finalement manqué d'énergie pour inquiéter son adversaire?
Oui, c'est ce qu'on peut en conclure à mon sens. On a vu un HCA très bien entrer dans cette partie, avoir plusieurs occasions dans une première période, somme toute équilibrée. Ajoie qui n'a pas réussi par manque de réalisme, par manque de chance aussi parfois, à ouvrir la marque, qui a encaissé le premier but à 40 secondes de la première sirène. Et puis le tournant, ça aurait été le 2-0 marqué sur pénalty à la 24e par Walmark après une faute de Minder. Dès lors, Ajoie a peiné, a perdu beaucoup de duels, a perdu en intensité. Et Fribourg a gagné en confiance, a joué dès lors avec beaucoup de métier pour procédé par rupture et a réussi encore à en mettre 3. Ce n'est pas volé, cette victoire des Fribourgeois. Ajoie qui est muet pour la première fois depuis 11 matchs. Hein. Ajoie qui n'a pas trouvé donc l'ouverture, qui n'a pas réussi à marquer aujourd'hui. Et voilà, la trêve qui va donc faire du bien, on imagine, pour reposer un petit peu les troupes, en particulier les joueurs majeurs, qu'on a globalement peu vu aujourd'hui, visiblement émoussés donc par tous les efforts fournis notamment hier soir contre Lausanne.
Merci Michel. La suite de l'actualité sportive, c'est d'ici quelques minutes à la fin du journal. Le régime syrien de Bachar el-Assad s'est effondré comme un château de cartes. Les rebelles islamistes ont pris aujourd'hui la capitale Damas après une offensive éclair de moins de 2 semaines. La Russie a confirmé en début d'après-midi que Bachar el-Assad avait fui la Syrie après avoir dirigé le pays pendant près de 25 ans. Le porte-parole du Kremlin a précisé que le président syrien avait démissionné de son poste et quitté la Syrie en donnant l'instruction de procéder à un transfert pacifique du pouvoir. Les réactions se sont multipliées cet après-midi à l'annonce de la fin du régime syrien. Cléa Robert.
La chef de la diplomatie de l'Union européenne a salué comme positive la chute de Bachar el-Assad. Kaya Kallas a estimé que l'événement montrait la faiblesse des soutiens russes et iraniens au régime syrien. L'Ukraine a aussi salué la fin de ce dernier. Pour Kiev, les dictatures qui ont parié sur le président russe Vladimir Poutine sont vouées à la même fin, a indiqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Le président français Emmanuel Macron s'est félicité que l'état de barbarie soit tombé en Syrie. Il a également souligné que la France resterait engagée pour la sécurité de tous dans la région. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a parlé quant à lui d'un jour historique pour la Syrie. Il a également évoqué la chute d'un maillon central de l'axe du mal dirigé par l'Iran. La Turquie, qui a soutenu les rebelles islamistes syriens, a pris acte de l'effondrement du gouvernement. En Suisse, le département fédéral des affaires étrangères a appelé toutes les parties à protéger les civils et à respecter le droit international humanitaire.
Les États-Unis quitteront l'OTAN à moins que les États alliés ne contribuent davantage financièrement. Le président américain élu Donald Trump s'est exprimé en ce sens dans une interview à NBC News, dont des extraits ont été diffusés aujourd'hui. S'ils paient leurs factures et qu'ils nous traitent de manière juste, je resterai dans l'OTAN. Donald Trump a ensuite répondu tout à fait à la question de savoir s'il envisageait de quitter l'Alliance Atlantique dans le cas contraire. Un documentaire retrace la fermeture de l'usine de cigarettes BAT à Boncourt. Le documentaire qui s'intitule « Les cendres de l'industrie » a été réalisé par le Genevois Laurent Grenicher. Il a été projeté ce matin à Boncourt et sera diffusé mercredi prochain sur RTS1. Le documentaire revient plus largement sur l'histoire de l'usine boncourtoise. Il montre notamment le contraste entre la gestion paternaliste et sociale de l'entreprise par la famille Burus et celle d'une multinationale comme BAT. Le film se compose d'images d'archives et de témoignages d'anciens employés. Il montre notamment le choc ressenti par le personnel à l'annonce en 2022 de la fermeture de l'usine. Laurent Grenicher.
pour tous les gens qui prennent la parole dans le film et qui ont perdu leur travail, c'est quand même un choc incroyable, déjà parce que l'historique de l'usine faisait que pour beaucoup, elle était là depuis longtemps, puis qu'elle serait là encore longtemps. Malheureusement, c'est un secteur, le tabac, on le sait, qui est quand même extrêmement fragilisé, en tout cas ici en Occident. En l'occurrence, ce qui m'a frappé, c'est la grande solidarité en fait entre les gens qui travaillent dans cette usine. Certains avaient un travail assez pénible, répétitif, dans des ateliers assez bruyants. On sait que travailler avec des machines, ça peut vite être dangereux. Donc, il y a un sentiment de solidarité très fort avec ces ateliers, ces entreprises. C'est quelque chose que j'ai pu constater à travers de nombreux films.
Vous connaissez bien le tissu économique de la région, de l'arc jurassien. BAT, finalement, c'est quand même un petit peu, un cas à part, mais elle avait quoi de particulier, cette entreprise ?
Je crois que ce qui fait la particularité de cette usine, en particulier quand elle était sous le giron de la famille Burrus, c'est l'impact qu'elle a eu sur la communauté à travers tous les investissements qui ont été faits pour la collectivité. Enfin, je veux dire, pour une petite ville comme Boncourt, c'est absolument incroyable la quantité d'infrastructures qui ont été construites, qui bénéficient d'ailleurs plus largement qu'à la commune seule, qui bénéficient à l'ensemble de la région. Mais je pense que c'est vraiment ça, moi, qui m'a énormément frappé. C'est tout, finalement, les investissements qui ont été faits par la famille Burrus tout au long de ces années, qui ont offert un confort assez incroyable à l'ensemble de la communauté, qui se poursuit d'ailleurs encore à travers des fondations, puisque les maisons de la famille ont été données à des fondations. Ça a permis de créer des homes pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap. Donc franchement, c'est un sacré contraste par rapport finalement à ce que fait ou ne fait pas une multinationale, c'est clair.
Les cendres de l'industrie, le documentaire de Laurent Grenicher sur la fin de l'usine BAT à Boncourt sera diffusé mercredi prochain à 23h10 sur RTS1. L'heure de dévoiler l'éventail artistique des cantons du Jura et de Berne a sonné. La cantonale Berne-Jura commence aujourd'hui, se terminera le 26 janvier. Au total, sur les plus de 500 dossiers envoyés, 217 candidatures ont été sélectionnées. Les diverses expositions sont l'occasion pour les artistes de présenter un état des lieux du travail qu'ils ont réalisé durant l'année. Une nouveauté à signaler cette année, l'association cantonale Berne-Jura va rémunérer les participants. Julien Berbera, président de la cantonale Berne-Jura.
Ça s'inscrit en fait dans une volonté politique de rémunérer les artistes de manière plus équitable, on va dire. C'est une revendication de longue date de la part des artistes, mais à la cantonale, on était sensible à ça et cette année, on a réussi à mettre en place un système de rémunération où les artistes, en participant à la cantonale, peuvent être payés. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on défrayait uniquement les coûts de transport. Et puis, ce n'est pas acceptable de notre point de vue, du point de vue du comité de la cantonale. Les artistes qui investissent du temps et de l'énergie pour proposer des œuvres doivent avoir au moins une rémunération symbolique. Donc on a mis en place, en collaboration avec les cantons, une rémunération de 250 francs par artiste qui participe, 300 francs pour les artistes qui participent en deux institutions. C'est la limite un peu budgétaire qu'on pouvait avoir cette année. C'est pas encore tout à fait satisfaisant, donc nous on va essayer de travailler avec le comité de la cantonale pour augmenter dans les prochaines années cette rémunération.
Et même si les artistes revendiquent un salaire depuis longtemps, c'est en partie depuis la pandémie de Covid-19 que la problématique et l'ampleur de la précarité se sont visibilisées, d'après le président de la cantonale, Berne-Jura. Un déclic qui a normalisé la rémunération du monde artistique, on retrouve Julien Berbera.
Ça devient une norme. Les artistes sont plus d'accord de travailler gratuitement. Ils et elles ont raison. Après, ça met beaucoup de responsabilités sur des institutions culturelles. Et puis la réalité du tissu artistique suisse, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'artistes. Beaucoup d'institutions qui sont tenues par des personnes de manière bénévole. On a beaucoup de ce qu'on appelle des off-space, donc des espaces qui sont dirigés soit par des artistes, soit par des curateurs, mais qui sont tenus genre vraiment bénévolement. Ils ont déjà de la peine à payer des fois les loyers, donc il faut davantage de moyens si on veut vraiment pouvoir rémunérer correctement les artistes. C'est toute la chaîne qui doit disposer davantage de moyens.
Et la cantonale Berne-Jura est à découvrir jusqu'au 26 janvier dans divers lieux d'exposition de la région. Plus d'informations en lien sur notre site internet rfj.ch.
Sport. d'accord.
Ok, sur glace, vous l'avez entendu dans le journal, le HC Ajoie a subi un net revers aujourd'hui contre Fribourg-Gotteron, Florian Wolfer.
Oui, la formation jurassienne a perdu 5-0 sur la glace des Fribourgeois cet après-midi en National League. Après son succès obtenu hier contre Lausanne en prolongation, le HCA a manqué d'énergie sur la glace des Dragons. Il était déjà mené 3-0 après le deuxième tiers. Place désormais à la trêve internationale pour les Ajoulots. Des réactions de cette rencontre entre le HC Ajoie et Fribourg seront à entendre demain dans nos journaux et dès ce soir sur rfj.ch. Et deux autres rencontres de National League se disputaient ce soir. Davos a gagné 2-1 contre Lugano après prolongation. Une autre rencontre est encore en train de se disputer. Genève et Crapersville se tiennent en échec de partout. Le VFM ne remporte plus de 7 depuis 3 matchs. Il s'est incliné sur le score de 3-0 cet après-midi à Guin en Liga. C'est la troisième fois consécutive que la formation Ténionne perd sur ce score. Dans le détail, le volleyball Franche-Montagne a été dominé 25-16, 25-20, 25-23 dans la salle des Fribourgeoises. Avec ce troisième revers de rang, la formation de Mélanie China recule à la 8e place du classement et compte le même nombre de points que son adversaire du jour, le premier relégable. Les skieurs du Cercle Blanc disputent leur troisième course du week-end ce soir après une descente vendredi et un super G hier. C'est un géant qui est au programme de la Coupe du Monde de ski alpin à Beaver Creek. La première manche a démarré il y a quelques minutes dans la station du Colorado. Après 5 skieurs, c'est le Suisse Thomas Tumler qui mène le bal. La deuxième manche se tiendra dès 21h. Des réactions seront à entendre demain matin dans nos différents journaux. Lausanne continue sur sa bonne lancée en Super League de football. Les Vaudois se sont imposés 3-0 contre Zurich cet après-midi. Ce succès leur permet de cueillir une 6e victoire de rang à domicile et de grimper à la 4e place du classement. Deux autres rencontres se jouent en ce moment même. Bâle s'incline 1-0 contre Saint-Gall et Servette gagne 1 partout entre Servette et Winterthur. Et un échelon plus bas, Étoile Carouge revient à 2 points du leader de Challenge League. Les Genevois ont battu Chafouz 1-0 cet après-midi à domicile. Deux matchs se jouent aussi également actuellement. Le troisième Haro s'impose 1-0 contre le Stade Lausanne-Louchy et Vaduz gagne 2-1 contre Bellinzone. Belinda Bencic a perdu la finale du tournoi de tennis WTA 125 d'Angers cet après-midi. La Saint-Galloise s'est inclinée 7-6, 3-6, 6-0 devant l'américaine Alicia Parks après 2h22 de jeu en France. Son parcours dans ce tournoi lui permet toutefois de réussir un bond de près de 430 rangs au classement mondial. Et enfin, Lando Norris a conclu en beauté la saison de Formule 1. Parti en pole position, le Britannique a remporté le 24e et dernier Grand Prix cet après-midi à Abu Dhabi. Il offre ainsi à McLaren son premier titre mondial des constructeurs depuis 1998. Lando Norris a survolé les débats aux Émirats Arabes Unis. Le vice-champion du monde a devancé les deux Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et du Monégasque Charles Leclerc.